Chapitre 47. Ce qui effrayait Caton, c'était cette étrange puissance que prenait sur Rome César, absent de Rome. Tandis que l'écho de l'Orient apportait la nouvelle de la défaite de Crassus, l'écho de l'Occident apportait la nouvelle des victoires de César. Un jour arriva cette nouvelle que César avait marché contre les Germains avec lesquels on était en paix et leur avait tué 300 000 hommes. C'était la même infraction que celle qu'avait commise Crassus contre les Parthes. Seulement, Crassus avait laissé 30 000 hommes et perdu la vie, là où César avait trouvé une nouvelle occasion d'augmenter sa gloire et sa popularité. Au bruit de cette victoire, le peuple poussa de grands cris de joie et demanda que l'on rendît publiquement grâce aux dieux. Mais Caton, au contraire, s'éleva contre César, qui avait commis cette injustice d'attaquer un peuple avec lequel on était en paix, et il demanda qu'on livre à César aux Germains pour qu'ils eussent à faire de lui ce que bon leur semblerait. « Sacrifions aux dieux, dit-il, pour les remercier de ce qu'ils ne font pas retomber sur l'armée la folie et la témérité du général. Mais punissons ce général pour ne point attirer sur nous la vengeance des dieux et ne pas charger Rome du poids d'un sacrilège. » Il va sans dire que la proposition de Caton fut honteusement repoussée. César apprit au fond des Gaules la bonne volonté de Caton pour lui et, dans une lettre au Sénat, chargea à son tour Caton d'injures et d'accusations. Parmi ces accusations, les deux registres des comtes cypriotes, l'un noyé, l'autre brûlé, tenaient grande importance. Et, à l'endroit de la haine de Caton contre Pompée, César demandait si cette haine n'avait point pour cause le refus qu'avait fait Pompée de la fille de Caton. À ces deux imputations, Caton répondit que peu importait d'abord ces deux registres perdus ou conservés, que sans avoir reçu de la République ni un cheval, ni un soldat, ni un vaisseau, il avait rapporté de Chypre plus d'or et d'argent que Pompée n'en avait jamais conquis par toutes ses guerres, par tous ses triomphes et en bouleversant le monde. Que, quant au refus que Pompée aurait fait d'avoir Caton pour beau-père, c'était, au contraire, lui, Caton, qui avait refusé d'avoir Pompée pour gendre. Non point qu'il crût Pompée indigne de s'allier à lui, mais parce qu'il trouvait les principes de Pompée trop peu conformes aux siens. Pompée, nommé seul consul, avait, comme nous l'avons vu, rétabli l'ordre et fait condamner Milon, sans s'inquiéter si Milon avait été son homme, et sans mesurer le service que Milon lui avait rendu en tuant Claudius. La tranquillité exilée de Rome y avait donc fait, comme Cicéron, une rentrée triomphale. Cicéron appelle le consulat de Pompée « divin ». Où tout cela menait-il Rome? À la royauté, ou tout au moins à la dictature. En effet, le mot « roi » était tellement détesté des Romains que c'eût été une grande folie de prononcer le mot. La chose déguisée sous le nom de dictature était beaucoup moins effrayante. Il y avait bien les souvenirs de la dictature de Sylla, mais la dictature de Sylla avait été une dictature aristocratique et toute la noblesse, tout le patriciat de Rome surtout, trouvait qu'une pareille dictature valait encore mieux que des tribunats comme ceux des Gracques et de Claudius. Il en résulta que Pompée se crut assez fort pour faire un essai. On répandit sourdement dans Rome que Pompée consul ne pouvait encore faire tout le bien qu'il désirait, et surtout empêcher tout le mal qu'il craignait. Puis, à la suite de ce regret exprimé, les gens qu'il avait exprimé secouaient mélancoliquement la tête, comme réduits d'en venir à cette extrémité, en disant « C'est triste à avouer, mais il faudrait un dictateur. » De sorte qu'on entendait que ces mots dits à mi-voix « Il faudrait un dictateur est nécessaire. » Et on ajoutait « Et franchement, n'est-ce pas ?» Il n'y a que Pompée qui puisse être dictateur. Caton entendait dire cela comme les autres et rentrait chez lui furieux. Enfin, un homme se chargea de formuler ce prétendu désir du peuple, ce prétendu besoin de Rome. C'était le tribun Lucilius. Il proposa publiquement d'élire Pompée dictateur. Mais Caton était là. Caton monta à la tribune après lui et le mena si rudement que Lucilius faillit perdre son tribunat. Voyant cet échec, plusieurs amis de Pompée se présentèrent en son nom, déclarant que jamais Pompée, lui eût-on donné la dictature, ne l'eût accepté. Mais, dit Caton, parlez-vous au nom de Pompée lui-même ou seulement en votre propre nom ?
Nous parlons au nom de Pompée, répondirent les ambassadeurs.
Eh bien, reprit Caton, il y a un moyen bien simple à Pompée de montrer sa bonne foi. Il a tout pouvoir, qu'il fasse rentrer Rome dans la légalité en aidant à la nomination de deux consuls. Le moyen proposé par Caton fut reporté à Pompée. Le lendemain, Pompée descendit au forum et s'adressant au peuple. « Citoyens, dit-il, j'ai obtenu toutes les charges beaucoup plus tôt que je ne l'avais espéré.
Et je les ai déposées toujours beaucoup plus tôt qu'on ne s'y était attendu.
Que désire Caton ?
Je ferai selon son désir. »
Caton demanda que, par l'influence de Pompée, deux consuls fussent élus et, s'il était possible, sans trouble. Pompée fixa les comices à un mois, déclarant que tous les citoyens étaient libres de se présenter pourvu qu'ils remplissent les conditions nécessaires au consulat et affirma que, sans trouble, ils seraient élus. Beaucoup se présentèrent. Domitius et Messala furent élus. Domitius était le même contre lequel Pompée avait fait 30 entreprises illégales et qu'il avait tenu à siéger dans sa maison, tandis qu'il se faisait nommer consul avec Crassus. Puis Pompée se démit du pouvoir. Il rentra, ou fit semblant de rentrer dans la vie privée. D'où venait cette facilité à redevenir simple particulier ? Il y avait près de 2 ans que Julie était morte et Pompée était amoureux. De qui Pompée était-il amoureux ? Nous allons vous dire cela. D'une femme charmante, fort à la mode à Rome, de la fille de Metellus Scipion, de la veuve de Publius Crassus. Elle s'appelait Cornélie. C'était en effet une personne fort distinguée, très versée dans la littérature et musicienne excellente. Elle jouait de la lyre, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir étudié la géométrie et, dans ses moments perdus, de lire les philosophes. C'est ce que, de nos jours, nous appelons, nous autres Français, une femme de lettres et ce que les Anglais appellent un bas bleu. Ce mariage fit hocher toutes les têtes sérieuses de Rome. Pompée ne comptait pas moins de 53 ans. Qu'avait-il à faire d'une femme de 19 ans qui eût été d'âge à épouser juste le plus jeune de ses deux fils ? De notre côté, les républicains trouvaient que, dans cette occasion, Pompée avait oublié la situation précaire de la République. Sous les nouveaux consuls, les troubles recommençaient. Que faisait Pompée pendant qu'on se bousculait au forum, comme au beau jour de Claudius et de Milon ? Il se couronnait de fleurs, faisait des sacrifices et célébrait ses noces. Mais pourquoi Caton avait-il troublé le consulat de Pompée ? Il convenait tant à Cicéron. Tout allait si bien à Rome quand Pompée était seul consul. Aussi, lorsque Messala et Domitius eurent fait leur temps, je n'oserais même pas dire qu'ils le firent jusqu'au bout, cette idée rentra dans la tête de tous les honnêtes gens de Rome d'avoir Pompée pour dictateur. Remarquez que, grâce à l'opposition faite par Caton, Caton était au nombre des malhonnêtes gens. On proposa donc de nouveau la dictature pour Pompée, mais alors Bibulus monta à la tribune. Vous souvenez-vous de Bibulus ? C'est le gendre de Caton. Bibulus monta donc à la tribune. On s'attendait à quelques sorties véhémentes contre Pompée. Point. Bibulus proposa de réélire Pompée seul consul. Ainsi, il lui donnait une grande autorité, mais limitée au moins par des lois. De cette façon, disait Bibulus, la République sortira de la confusion où elle est et on sera esclave du meilleur citoyen. Cet avis paraissait étrange de la part de Bibulus. Aussi, quand on vit Caton se lever, pensa-t-on qu'il allait, selon son habitude, tonner contre tout le monde et même contre son gendre. Mais il n'en fut rien. Au grand étonnement de la multitude, on entendit sortir de la bouche de Caton ces paroles qui furent prononcées au milieu d'un profond silence. « Jamais je n'eusse ouvert la vie que vous venez d'entendre. Mais puisque quelqu'un d'autre l'a fait, je pense que vous devez le suivre. Je préfère à l'anarchie une magistrature quelle qu'elle soit et je ne connais personne de plus propre que Pompée à commander dans de si grands troubles. » Le Sénat, qui n'attendait que l'opinion de Caton pour se prononcer,
se rangea à cette opinion aussitôt qu'elle fut émise. Il fut donc décrété que Pompée serait nommé seul consul et que, s'il avait besoin d'un collègue, il choisirait lui-même ce collègue. Seulement, ce ne pourrait être avant 2 mois. Pompée, enchanté d'avoir trouvé un appui dans l'homme chez qui il comptait rencontrer un adversaire, invita Caton à le venir voir dans ses jardins du faubourg. Caton s'y rendit. Pompée se porta au-devant de lui et l'embrassa, le remerciant de son appui, le priant de l'aider de ses conseils et de faire comme s'il partageait l'autorité avec lui. Mais Caton, toujours rogue, se contenta de répondre à toutes ces politesses de Pompée. Ma conduite précédente n'avait pas été dictée par un sentiment de haine. Ma conduite présente n'est pas réglée par un motif de faveur. Autrefois, comme aujourd'hui, je n'ai consulté que l'intérêt de l'État. Maintenant, toutes les fois que tu me consulteras sur les affaires privées, je te donnerai volontiers un conseil. Mais quant aux affaires publiques, que tu me le demandes ou non, j'en dirai toujours mon avis, et tout haut encore. Pour Cicéron, c'était tout le contraire de Caton. Celui-ci semblait tenir à honneur d'être mal avec tout le monde. Celui-là était aussi bien avec César qu'avec Pompée. Au mois de novembre de l'an de Rome 700, c'est-à-dire 53 ans avant Jésus-Christ, Cicéron écrivait à Atticus. Je trouve une première consolation et comme une planche dans mon naufrage à ma liaison avec César. Il comble mon frère Quintus, je dirais ton frère, bon Dieu, d'honneur, d'égard, de bonne grâce, au point que Quintus ne serait pas mieux, m'ayant pour impérator. Croirais-tu que César vient, à ce qu'il m'écrit, de lui abandonner le choix d'un quartier d'hiver pour ses légions? Et tu ne l'aimerais pas? Et qui donc aimerais-tu alors parmi tous ces gens-là? À propos, t'ai-je mandé que je suis lieutenant de Pompée et que je quitte Rome aux ides de janvier? Ô digne Cicéron! Et quand on pense que, sans Fulvie, il eût été aussi bien avec Antoine qu'il l'était avec Pompée et avec César.